franceinter.fr.
Bonjour Patricia, bonjour Stéphane et bonjour à tous. Vous en avez sans doute entendu parler, peut-être même l'avez-vous déjà entendu chanter. Il s'appelle Jean-Philippe Lafont, il a 66 ans, un physique imposant et des sourcils épais, fils d'un gazier chez EDF et d'une ouvreuse de cinéma. Il se destinait au départ à une carrière dans la médecine, mais finalement c'est dans le lyrique qu'il a trouvé sa voix, en l'occurrence une voix de baryton basse. On a pu l'entendre à Bastille, comme à l'Opéra Garnier, la Scala de Milan, de même qu'au Carnegie Hall, salle mythique de New York, l'entendre notamment dans Rigoletto de Verdi. Jean-Philippe Lafont est donc chanteur d'opéra. Mais il organise également des masterclass. Et pour 500 euros de l'heure, il aide par ailleurs des chefs d'entreprise et autres décideurs nationaux à mieux parler et surtout apprendre à poser leur voix. Et c'est donc lui, depuis 3 mois, qui prodigue ses conseils à Emmanuel Macron.
Je me demandais où vous vouliez en venir.
Lequel s'était fait sacrément moquer après ses hurlements et ses aigus incontrôlés des dernières minutes de son discours de la porte de Versailles au mois de décembre dernier. C'est à ce titre qu'il a donné cette semaine une interview à l'hebdo Paris Match. 2 pages dans lesquelles il explique les bases de l'élocution politique. Ralentir, insister, réfléchir aux liaisons. Conseil numéro 1, prendre son temps. Tout le monde parle trop vite, assure-t-il. Or, lorsqu'on parle trop vite, on est moins bien compris et ensuite, il faut donc redire. Conseil numéro 2, faire exister la ponctuation. Il faut donner de la vie, de la couleur aux phrases. Quand tout est dit de la même façon, c'est monocorde et l'auditoire n'écoute plus. Conseil numéro 3, maîtriser sa gestuelle, surtout se concentrer et ne pas laisser échapper des gestes inconsidérés. Conseil numéro 4, utiliser les silences. Laisser attendre les mots clés permet de remobiliser et puis un silence donne la possibilité de respirer tout en attisant la curiosité de ceux qui écoutent. Dès lors, ces différents conseils ont-ils déjà aidé le candidat qu'il coach? Oui, selon Jean-Philippe Lafont, qui estime qu'Emmanuel Macron a gagné en maîtrise. Il ne parle plus aussi haut, il reste dans un joli médium et il fait notamment de très belles nasales. Macron fait de très belles nasales, c'est une information. Mais que pense donc le baryton de la façon de parler des autres candidats lancés vers l'Élysée? Jean-Luc Mélenchon, par exemple, il le trouve brillant. On voit qu'il aime le mot, qu'il aime mâcher le mot, dit-il. Et le socialiste Benoît Hamon, là en revanche, le coach est sacrément sévère, il le trouve trop banal. Et même quand il dit des choses intéressantes, il le dit de façon emmerdante. Quant à Marine Le Pen, il la trouve simplement vulgaire.
Et sur François Fillon, que dit le chanteur d'opéra?
Eh bien, le nom de François Fillon n'apparaît pas dans l'interview. Faut croire que Jean-Philippe Lafont n'avait rien à en dire, à moins, tout bonnement, que comme d'autres, il n'est déjà acté que François Fillon ne sera plus candidat dans les jours qui viennent. Et de fait, la question se pose à la lecture de la presse ce matin.
À 7 semaines du premier tour, la droite est en état de crise.
C'est le titre à la une du Figaro et le journal de droite d'insister sur la détermination qu'a affiché hier François Fillon dans sa vidéo postée sur Facebook. Malgré les défections en série dans son camp et malgré les appels de plus en plus pressants en faveur de son remplacement par Alain Juppé, l'encore candidat, inviter ses partisans à venir nombreux demain pour lui témoigner leur soutien. Ce sera donc au Trocadéro, sur la place des droits de l'homme. Un rassemblement dont l'organisation a été confiée au mouvement Sens Commun. Sur slate.fr, vous pourrez lire les témoignages de ceux qui ont prévu de s'y rendre. Ceux qui soutiennent encore François Fillon, et tous disent que s'ils le soutiennent, c'est surtout pour son programme. Le programme économique à la Thatcher dont la France a besoin, explique notamment Cyril, 30 ans, conseiller financier. Mais ces démêlés avec la justice ne vous semblent donc pas importants, questionne le site internet. Réponse d'Emeric, élève avocat de Versailles. Je trouve assez absurde que l'on cherche autant la vertu en politique. Les plus vertueux ne sont pas toujours les meilleurs hommes. Je pense à Robespierre, poursuit-il. Un être irréprochable sur tous les plans, mais qui fit pourtant guillotiner 80 000 Français. Autre commentaire du côté de Francesca, parisienne travaillant dans la communication, au moins avec Sarko. On savait que c'était un voyou, mais c'était un voyou intelligent qui a réussi à ne pas se faire prendre avant d'être élu. des paroles de soutien. On en trouve également dans les colonnes du Figaro, soutien notamment de l'ancien ministre Luc Chatel. Seul le vainqueur de la primaire a aujourd'hui la légitimité pour être candidat. Soutien également de l'ancien patron d'AXA, Henri de Castres, dans les colonnes du Parisien. Je n'ai aucun doute, dit-il, sur la détermination de François Fillon. Mais pour le reste, l'heure n'est pas vraiment au soutien, c'est le moins qu'on puisse dire. À la une de Libération, Fillon, l'implosion. Grand dessin de Willem, la tête du candidat, entouré de 25 visages, anonymes ceux-là, mais sur lesquels on peut lire plan B, plan C, plan D, plan E, plan F, plan G, jusqu'à la fin de l'alphabet. Alain Juppé, le plan B des Républicains, commente Midi Libre. Juppé, un recours qui se précise, abonde centre-presse. Tandis que Libération Champagne évoque le chemin de croix de François Fillon depuis qu'il a dit qu'il maintenait sa candidature malgré l'annonce de sa future mise en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs de sa femme. L'ancien Premier ministre est donc lâché par une grande partie des siens, lâché notamment par son porte-parole Thierry Solaire, lâché par l'UDI et même par son fidèle et indéfectible directeur de campagne, Patrick Stefanini. Le départ de celui-ci sera officialisé après le rassemblement de demain.
Oui, et sur le site du JDD, comme sur celui du Huffington Post, on peut d'ailleurs lire la lettre de Patrick Stefanini écrite à François Fillon.
Il évoque tout d'abord ses raisons personnelles. Il s'estime aujourd'hui minoritaire au sein de l'équipe du candidat. Il évoque ensuite des raisons morales, la question de savoir si un responsable politique peut solliciter les suffrages des électeurs en étant mis en examen appelle d'abord une réponse morale, écrit-il, et pour lui, la réponse est donc non. Fillon de plus en plus seul, commente Paris Normandie. Fillon, c'est fou, s'exclame à sa une La Provence, décrivant une campagne sans dessous-dessous. Mais qu'il dégage, s'emporte l'écho de la Haute-Vienne, lâché par les élus. Fillon en appelle à la rue, note la Charente Libre, mais jusqu'où ira-t-il ? S'interroge aujourd'hui le Parisien pour qui le meeting de demain place du Trocadéro se présente vraiment comme celui de la dernière chance. Sur son site, Libération propose d'ailleurs un compteur des lâcheurs de Fillon. Ils étaient 139 hier à 21h. Ce ne sont plus les rats qui quittent le navire, c'est le navire qui quitte le rat, commente Laurent Geoffrin, qui évoque l'équipée solitaire du vainqueur surprise de la primaire de la droite et du centre. Dans la République des Pyrénées, Jean-Marcel Bougreau, lui, trouve que c'est tout à l'image de ces situations où un forcené refuse de se rendre.
Mais alors Frédéric, que penser de l'hypothèse du plan B, c'est-à-dire le plan Alain Juppé ?
Eh bien, si l'on en croit le Parisien, c'est un plan qui a des limites. Lire les explications que donne Olivier Beaumont. D'abord, il y a le frein des parrainages. Ceux qui ont déjà envoyé leur parrainage pour François Fillon ne peuvent plus envoyer un parrainage pour Alain Juppé. Ensuite, faire campagne avec quel argent ? Le vainqueur de la primaire, c'était François Fillon. C'est lui qui a récupéré l'argent. Va-t-il rendre l'argent récupéré ? L'image d'Alain Juppé pourrait être également un franc. Et puis, il y a le cactus Barouin, François Barouin, qui a d'ores et déjà annoncé que si Juppé tentait une OPA sur cette campagne présidentielle, eh bien, lui aussi allait se lancer. C'est ce qu'il a expliqué. Bref, François Fillon, pour ton discours de demain, devrait sérieusement prendre conseil, je pense, sur le coach chanteur d'opéra. Allez, pour finir, quelques mots de l'autre homme qui fait la une ce matin. Raymond Coppa, l'ancien joueur de football, premier ballon d'or français, il est mort hier à 85 ans. Photo en noir et blanc, pleine page dans l'équipe, à genoux, il refait ses lacets tout en scrutant le ciel. Coppa, à jamais le pionnier, titre le quotidien sportif avec un dossier de 15 pages dédié à celui que l'on surnommait Napoléon, mais ainsi que l'écrit le blogueur Didier Paubel, il n'était pas seulement une légende du foot, non, mais une légende tout court. Une figure populaire qui prouvait qu'un fils d'immigrés polonais pouvait jaillir triomphant de la mine. C'était, poursuit-il, du temps où les Trente Glorieuses se cherchaient des héros, un éclat de lumière, un élan collectif et une espérance de partage, c'est bien dit, comme quelques autres. Raymond Coppa fit basculer le sport dans cet univers fabuleux de l'épopée derrière lequel les marchands se tenaient déjà en embuscade. La magie d'hier a rendu l'antenne, conclut-il. Salut le Coppa et salut à tous.
Salut Frédéric Pommier.